accent d'Europe, Frédéric Lebel.
Bonjour à tous. 2017 sera-t-elle l'année d'une nouvelle renégociation de la dette qui étrangle la Grèce? Le Premier ministre Alexis Tsipras le souhaite. Il a sur ce point pour l'instant un allié, la France, mais un opposant ferme, l'Allemagne. En attendant, le dernier budget a acté plus d'impôts, plus de privatisations et guère de mesures favorables aux retraités. C'est donc dans la rue que les Grecs clament leur mécontentement. À Athènes, Charlotte Stevenard.
À Athènes, les grèves générales se succèdent au rythme des saisons et les motivations sont nombreuses. Le budget a été voté début décembre avec 1,07 milliard d'euros d'impôts nouveaux, mais aussi des privatisations en perspective. Les créanciers demandent une réforme pour faciliter les licenciements ou encore de nouvelles baisses des retraites. Dans la manifestation, Leonidas Karasanasis, 60 ans, raconte qu'en 4 ans, il a vu sa retraite diminuer de moitié. Pour lui, ces mesures n'ont qu'un but.
On dirait qu'ils veulent brader la Grèce, diminuer le coût du travail à un niveau dégradant afin de pouvoir investir dans certaines entreprises, dans le tourisme ou ailleurs. Ils veulent faire des bénéfices et la qualité de vie des travailleurs ne les intéresse pas du tout. Mais comme vous pouvez le comprendre, ils ne peuvent plus tirer sur la corde. Ils ont épuisé les travailleurs. C'est la 6e année que les travailleurs font face à toutes ces difficultés. Il semble qu'avec les négociations, ils disent que ça tiendra au moins jusqu'en 2021. Tout ce soi-disant gras qu'il y avait, il n'y en a plus. Nous touchons le fond du baril.
L'argument des créanciers, c'est que les plans d'aide et les réformes doivent permettre de faire repartir l'économie. Mais jusqu'ici, la croissance est proche de zéro. Dans la manifestation, Yorgos Papasanasiou, un électricien à la retraite, raconte qu'il avait 400 euros de pension par mois et qu'il en a maintenant 110. Il résume le sentiment général.
Ce n'est pas juste. L'argent qu'ils nous donnent en échange de nouvelles mesures, ce sont les banques françaises et allemandes qui le récupèrent. Il ne reste rien pour redynamiser l'économie et avoir la croissance dont ils parlent. Il faut qu'ils changent de recette. Tous l'ont reconnu, elle ne fonctionne pas, mais personne ne la change.
Les discussions sur cette fameuse dette qui plombe le pays ont repris cette année. Les créanciers sont les États membres de l'Union européenne, le Mécanisme européen de stabilité financière, la Banque centrale européenne et le Fonds monétaire international. Mais pour l'instant, ces institutions jouent surtout de la carotte et du bâton. C'est ce que critique Aris Ratsistefanou, assis dans un café Placintagma à Athènes. Cet auteur d'une série de documentaires engagés sur la question de la crise de la dette en Grèce par l'Union européenne compare l'aide à une drogue.
Le trafiquant de drogue a intérêt à conserver le drogué en vie pour qu'il ait tout le temps besoin de stupéfiants. S'il meurt, il perd son client. Eh bien, les institutions européennes ont fonctionné exactement comme ça. Elles voulaient que la Grèce se retrouve dans la même situation qu'un toxicomane qui ne peut pas tenir sur ses pieds, c'est-à-dire qui n'a pas sa propre industrie, qui ne peut pas afficher des taux de croissance. Un client qui dépend exclusivement de cet argent qui ne lui procure du plaisir que pour quelques minutes, mais qui détruit votre organisme. Ces prêts détruisent l'organisme de l'économie grecque.
Comme une majorité des Grecs, il estime qu'avec des réformes qui plombent l'économie, les créanciers ne cherchent pas vraiment à récupérer leur argent. Beaucoup s'interrogent, y aurait-il un programme qui n'avoue pas son nom, piloté par la finance et les grandes entreprises européennes qui cherchent à vendre le pays par le biais des privatisations?
L'économie ne s'améliore pas grâce aux mesures qu'ils imposent. Ils arrivent et disent aux petits pays, vous allez vendre vos entreprises publiques. Et ils nous font vendre des sociétés rentables, c'est-à-dire celles qui pourraient rapporter de l'argent à l'État, qui pourraient permettre de retrouver de la croissance et de rembourser les prêts. Ce qu'ils veulent, c'est un pillage des propriétés publiques.
Dans son bureau du centre d'Athènes, Dimitris Bimpas voit aussi d'autres raisons qui expliquent les atermoiements sur la dette grecque. Il travaille au centre de recherche de la Confédération hellénique des professionnels artisans et commerçants. Pour lui, les Européens se sont laissés dépasser par d'autres préoccupations comme la crise migratoire et la montée du populisme.
Ils ont repoussé encore une fois le problème grec après les élections en France et en Allemagne. Mais je ne suis pas sûr qu'ils auront plus de marge de manœuvre après. Ils devraient anticiper.
Le bras de fer se joue désormais entre le Fonds monétaire international qui demande une restructuration de la dette et l'Allemagne qui est fermement opposée, tandis que la France y est plutôt favorable. Le sujet n'est pas près de rassembler l'Union européenne.
Le gouvernement finlandais a fait son mea culpa et présenté ses excuses. Des années 20 jusqu'à la fin des années 60, des dizaines de milliers d'enfants de familles défavorisées ont en effet été envoyés dans des écoles de réforme, en fait des camps de travail, où ils étaient maltraités. Récit signé Pauline Curté.
Des garçons au crâne rasé, en uniforme rapiécé, le regard fuyant dans une pièce spartiate qui leur sert de dortoir. Les photos d'époque des écoles de réforme, ou plutôt de ces maisons de correction, sont rares mais parlantes. Elles illustrent un passé que la Finlande aurait préféré oublier. Un passé dans lequel des milliers d'enfants jugés à problème devaient quitter leur famille, pour la plupart défavorisés, pour être internés dans ces établissements à plusieurs centaines de kilomètres de chez eux. Ces écoles étaient en fait des camps de travail. Les enfants devaient cultiver les champs, effectuer des tâches pénibles et souvent subir les coups des adultes sans recevoir une éducation digne de ce nom. Ce système a perduré jusque dans les années 60 et il a concerné plusieurs dizaines de milliers d'enfants en Finlande. Pour ces derniers, devenus pour la plupart des retraités, le 20 novembre a représenté un moment très particulier puisque c'était la Journée internationale de l'enfance. Pour la première fois, le gouvernement finlandais a reconnu sa responsabilité dans leur internement et a dénoncé les abus de ces maisons de correction. Cependant, cet acte reste symbolique et uniquement symbolique. La Finlande n'indemnisera pas les victimes de ce système, à la différence de la Suède ou de la Norvège, où des établissements similaires ont également existé. Tant pis pour ces milliers de Finlandais qui, ces derniers temps dans la presse, ont rappelé que leur pays leur avait volé leur droit à l'éducation.
À n'en pas douter, il s'agit d'une reconversion hors norme. L'ex-footballeur milieu de terrain nord-irlandais Philip Mulryan a raccroché les crampons dès 2008 à l'âge de 30 ans. Cette année, il s'apprête à formuler ses vœux pour devenir prêtre chez les franciscains. Récit d'un quart de siècle mouvementé avec Julien Lagache à Dublin.
C'est un chemin curieux et atypique qu'a suivi Philip Mulryan. Repéré tôt par des recruteurs anglais, ce gamin de la banlieue ouest de Belfast a 14 ans quand il est formé à Manchester United, où un avenir brillant semble se dessiner. À tel point qu'avant d'avoir joué son premier match officiel avec les Reds, il est appelé en équipe nationale et inscrit même le troisième but nord-irlandais à sa première titularisation face à la Belgique. Mais la concurrence est rude dans le grand Manchester de Sir Alex Ferguson, et Philip Mulryan ne trouve pas sa place sur le terrain au milieu des David Beckham, Ryan Giggs, Paul Scholes et Roy Keane. Il ne jouera qu'un seul match plein en 3 ans. L'essentiel de son CV, il le remplira à Norwich City, club qui l'aide à remonter en Premier League en 2004 et pour qui il marquera les 18 seuls buts de sa carrière. Adulé par les supporters du club, c'est l'époque d'un relatif succès pour lui, où il gagne jusqu'à 600 000 euros par an et où il sort notamment avec la top modèle Nicola Chapman. Mais son départ du club anglais en 2005 sera le début de la fin. Après 3 clubs en 3 saisons, Philip Mulryan raccroche et se fait très discret. On sait qu'il s'engage à ce moment dans des œuvres de charité auprès des pauvres et des sans-abri. Et c'est alors qu'un évêque nord-irlandais l'aurait encouragé à devenir prêtre. Un tournant puisque peu de temps après, Philip Mulryan s'envole en Italie pour étudier la philosophie au Collège catholique irlandais de Rome, et 2 ans plus tard, en 2011, il entame des études de théologie à Belfast. Fin octobre, Philip Mulryan a franchi un nouveau cap en se voyant ordonné diacre, une dernière étape avant de devenir prêtre d'ici l'été 2017 au sein de l'ordre dominicain, un ordre mendiant qui n'est pas sans rappeler son engagement auprès des pauvres, mais qui n'est pas non plus sans ironie puisque 2 jours avant son ordination, la justice nord-irlandaise a déclaré l'ex-footballeur en faillite personnelle.
A cazar nos vamos ya, atrapamos una ardilla, la sentamos en la silla y nos vamos a cantar.
Après le football et le basket, c'est le sport qui compte le plus de pratiquants en Espagne. Avec 333 000 fédérés, la chasse se porte encore bien, mais elle est sur le déclin. En 6 ans, le nombre de licences a chuté de 67 000. En cause, la crise, l'effet de mode et les campagnes des écologistes contre la chasse. Un reportage au nord de l'Estrémadure, signé Diane Cambon.
Accompagné de son chien Negro, un setter anglais, Toto sort chaque week-end durant la saison de la chasse en quête de perdrix, sangliers, lièvres et autres gibiers d'Estrémadure. Président durant des années de la société de chasse locale, il a pu constater comment peu à peu les jeunes perdaient de l'intérêt pour une activité qui a cimenté leur village de Robledillo durant des siècles.
Dans les campagnes, par exemple, avant on avait le fils qui était chasseur comme le père. Maintenant, c'est fini tout ça. Dans les villages, il y a encore quelques jeunes, mais ils préfèrent aller faire la fête et ne pas se lever tôt le matin. Ils s'en fichent de la chasse.
Dans un pays où 50% des jeunes sont au chômage et la majorité d'entre eux touchent un salaire minimum de 600 euros, ce loisir est devenu un luxe. Sans compter que pour obtenir un permis de chasse, il faut passer une série de contrôles très stricts, comme l'explique Rosset, un vétéran de la chasse au gros gibier.
Pour le permis de chasse, il faut passer un examen qui coûte près de 50 euros, et puis aussi un autre qui coûte 60 euros. C'est un examen psychotechnique pour manipuler l'arme. Ah oui, il y a aussi l'examen pour le port d'armes avec la garde civile. Tu ne peux pas avoir n'importe quelle arme. Tout est très contrôlé aujourd'hui.
Mais pour Toto, la question financière n'est pas la seule explication. La chasse n'offre plus une bonne image. Les jeunes l'associent à une Espagne traditionnelle, un peu poussiéreuse. Et puis il y a le discours, chaque fois plus musclé, des défenseurs des animaux.
Quand je regarde les forums sur la chasse, il y a de véritables disputes entre chasseurs et animalistes et autres types de ce genre. Mais les militants anti-chasse, ils parlent beaucoup et ils devraient un peu aller sur le terrain avant de parler.
À Robledillo, Rosset se défend de mener une chasse responsable. Selon lui, les chasseurs permettent de réguler les espèces invasives, comme le sanglier, et ne tuent que ce qui est permis.
Nous sommes conscients qu'il faut chasser d'une autre manière, plus orientée vers la conservation, qu'il faut toujours épargner les femelles, savoir dans quelle zone on est, ne pas abuser, ne pas tuer pour tuer et tirer profit de toutes les pièces abattues. Ici, par exemple, on en fait profiter tout le monde.
Pour Rosset, qui préfère parler de culture de la chasse au lieu de loisirs, c'est cette tradition qu'il veut transmettre aux jeunes.
Aujourd'hui, les jeunes sont beaucoup plus conscients de ce que représente la campagne. Même si ça n'en a pas l'air, ils connaissent les espèces et respectent l'environnement.
Ici, à Robledillo, ils espèrent que cette nouvelle génération parviendra à balayer les préjugés et attirer un profil de chasseur plus responsable, voire même un chasseur écologique.
Era incominciato nel gennaio 1943, una storia che riguardava l'America e la Sicilia.
Le titre du dernier film du réalisateur sicilien Pif sonne comme une romance, en guerre par amour, et pourtant le long métrage dénonce un scandale historique, preuve à l'appui. En Sicile, durant la Seconde Guerre mondiale, l'armée américaine a passé un pacte avec la mafia locale. Les explications depuis Palerme de Cécile Debarge.
Però una possibilità ci sarebbe.
E qual è?
New York, année 1943. Flora, une jeune Italienne émigrée aux États-Unis, demande à Arturo, son fiancé, d'aller demander sa main à son père, resté à Crisafullo, un petit village de la province d'Agrigente, en Sicile. Aucun problème, répond le jeune homme avant de se rappeler un détail. À l'époque, l'Europe est en pleine Seconde Guerre mondiale. Il s'engage alors dans l'armée américaine et va participer à la libération de sa terre natale. Car sur le front méditerranéen, la Sicile est un territoire stratégique. C'est de là que pourrait commencer la reconquête de l'Italie face à l'armée de Mussolini. Pour y parvenir, la faim a largement prévalu sur les moyens et l'armée américaine a signé un pacte avec le diable, en l'occurrence ici avec la mafia. À la fin du film, on se dit que le réalisateur exagère. Comment l'armée américaine aurait-elle pu installer au pouvoir de puissants mafieux de l'époque alors même que le pays était en train de les mettre derrière les barreaux ? Les dernières images pourtant sont glaçantes. Il s'agit de la reproduction du rapport Scotten, du nom de l'officier américain qui l'a rédigé à l'issue des opérations militaires en Sicile. Ce document qui croupissait dans les archives londoniennes décrit les alliances faites avec les mafieux locaux pour progresser dans les villages sans même qu'il n'y ait de combat, les libérations de prison des plus grands criminels de l'époque et le pouvoir que les alliés américains ont confié à ces mêmes criminels en quittant la région avec la tâche d'installer durablement la démocratie. Si le film se termine bien pour les deux amoureux, En guerre par amour est surtout l'histoire de cet officier Scotten qui, par amour pour son pays, les États-Unis, tentera de le ramener dans le droit chemin sans jamais avoir été ni écouté ni considéré.
Anch'io sono in guerra per amore.
Hygge is a very comfortable feeling. To me, it's something which happens every day when I come home and sit with my wife in front of a couple of candlesticks.
The
most appropriate word would be cozy.
Watching the next episode of CSI in the bed under the blankets with a cup of coffee and some chocolate. So I'd say that was pretty hyggelig.
Décidément, le Danemark à la cote. Un pays qui aurait éradiqué le chômage et où ses habitants seraient les plus heureux de la planète. Meg Viking, directeur du très sérieux Institut de recherche sur le bonheur de Copenhague, cherche à expliquer comment on en est arrivé là. Dans son livre du Hygge, paru aux éditions First, il nous raconte cet art de vivre très danois.
Les pays du Nord s'en sortent bien parce que l'État-providence des pays scandinaves permet vraiment de réduire les risques sérieux de la vie. Mais maintenant, on essaie de comprendre le bonheur d'un point de vue plus culturel. En effet, le système de santé, le fort niveau de confiance et la sécurité sociale avantagent les pays du Nord. Mais on n'a pas encore réussi à comprendre pourquoi le Danemark fait mieux que ses voisins, pourquoi il est devant la Suède, la Norvège, la Finlande et l'Islande. C'est ce qui nous a amené à nous intéresser au Hygge.
That's why we started to look at Hygge.
Et vous pouvez nous donner une définition du Hygge?
L'art de créer de l'intimité, on peut parler du cocooning près des bougies par exemple, ou encore la socialisation pour les introvertis. Pour moi, la meilleure définition est sans doute celle qui correspond le mieux à l'essence du Hygge, c'est la recherche du bonheur au quotidien. Essayer de créer du confort, un sentiment de sécurité, de relaxation, d'être ensemble, garder des plaisirs simples tous les jours.
Et pour accéder à ce bonheur du quotidien, il faut des objets, et l'un d'eux, c'est la bougie.
Les Danois sont dingues de bougies et d'éclairage en général. C'est sans doute pour cela que les meilleurs objets du design danois sont des lampes. On est obsédé par la lumière et l'éclairage, y compris celle que l'on a les jours de grand froid, la lumière du feu. Les Danois consomment 6 kilos de cire à bougie par personne et par an. C'est deux fois plus que l'Autriche, qui est le deuxième consommateur mondial. C'est une des manifestations du Hygge, parce qu'il faut créer une atmosphère pour le Hygge. On a par exemple des bougies de l'Avent pour Noël. Chaque jour, vous brûlez une journée jusqu'au 24 décembre. Et on célèbre la fin de l'occupation allemande durant la Seconde Guerre mondiale en mettant une bougie à la fenêtre.
Il y a beaucoup de vocabulaire autour du Hygge. Donnez-nous quelques bons exemples.
Oui, le danois est une langue qui sonne bizarrement avec beaucoup de mots composés, de mots valises. Notre mot le plus long a, je crois, 150 caractères. Alors, on aime bien mettre le Hygge avant ou après tous les mots. Alors, vous avez
Hyggegørne, which means
ça veut dire que vous êtes dans l'état d'esprit du Hygge en matière de design ou de déco. Vous pouvez avoir aussi
Hyggekrog, which basically means
c'est un petit endroit pour le cocooning, pour le Hygge, ou encore
Hyggespreder, the one that
celui qui diffuse le Hygge. Il y a
Hygge pants,
ça c'est le pantalon Hygge qu'on ne met qu'à la maison.
Oui, et tout peut être Hygge.
Yes, that's true.
Et oui, tout peut être rougueux devant un mot danois.
And you're good to go with Danish. Yes.
I think you've traveled a lot. Vous avez voyagé dans le monde entier pour promouvoir ce livre. Est-ce que le Hygge danois peut s'exporter partout, y compris en Asie, d'où vous revenez?
Oui, j'étais à Séoul il y a deux jours. C'est très intéressant de voir comment chaque pays s'approprie le Hygge. Mon livre est traduit dans 20 langues. Le cas de la Corée du Sud est vraiment intéressant. Ce pays a vu son niveau de richesse exploser en moins de 60 ans, sur deux générations. Ils sont passés du statut du pays le plus pauvre de la planète à l'un des plus riches. Ils ont énormément gagné en niveau de vie, mais ils n'ont pas l'impression d'avoir gagné en qualité de vie. La Corée du Sud cherche de nouveaux modes de vie, une nouvelle organisation de la société. C'est pourquoi le Hygge y rencontre un tel écho.
Le livre du Hygge de Meg Viking. Accent d'Europe était réalisé aujourd'hui par Jérémy Besset. Retrouvez-nous sur notre site et sur les réseaux sociaux et on se dit à demain.
Autour de la question.